Irma Grezel et Yen d'Auschwitz, épisode 3, nier quoi qu'il arrive. Alain Lefkovitch, Rafik Zénine. Lorsque les Britanniques libèrent le camp de Bergen-Belsen le 17 septembre 1945, Irma Grezel est immédiatement arrêtée, avec 44 autres responsables du camp, dont son dernier commandant, Joseph Kramer. Ils seront tous sur le banc des accusés, lors du procès que les organisateurs appellent Trial Against Joseph Kramer and 44 Others, le procès contre Joseph Kramer et 44 autres, 27 hommes et 16 femmes. Près de 200 journalistes allemands et étrangers sont présents. Irma Grezel porte le numéro 9.
Donc, elles étaient à peu près 4000 femmes à avoir gardé des prisonnières dans les camps de concentration.
Barbara Netschek, documentariste, spécialiste de l'histoire du nazisme, auteur d'un ouvrage intitulé « Femmes bourreaux » chez Grasset.
Elles ont en moyenne entre 25 et 26 ans. Elles sont célibataires. Ce sont des femmes qui viennent des couches populaires allemandes. Elles sont ou bonnes, auxiliaires de ferme, postières, ouvrières dans les usines. Et ces femmes-là, en fait, à un moment, elles découvrent par le bouche à oreille ou par petites annonces qu'elles peuvent gagner plus d'argent en devenant gardiennes dans des institutions militaires, comme disent les annonces. Elles ne parlent pas de camps de concentration. Donc, et dans ces camps-là, elles gagnent deux fois plus, par exemple, que dans leurs usines. Elles ont un uniforme. Elles sont en règle générale, surtout à Ravensbrück, qui était le camp principal des femmes, où elles sont beaucoup mieux logées. Elles habitent sur place, donc à deux pas de leur lieu de travail. Et surtout, elles ont un rôle au sein de la société nazie, qui est celui d'éduquer des femmes récalcitrantes, des femmes négligées, des opposantes. Donc voilà, il y a une ascension sociale qui est indubitablement liée à ce travail. Certaines veulent aussi échapper à leur famille. Certaines, comme par exemple, il y a des gardiennes autrichiennes, qui vont quitter leur province pour aller à Ravensbrück, près de Berlin. Donc elles s'échappent, et c'est aussi paradoxal que ça puisse paraître dans ce système nazi qui est quand même très misogyne. C'est une forme d'émancipation pour elles aussi.
Elle va être arrêtée avec d'autres membres de surveillance et de l'administration du camp le 17 avril 1945, donc dans le camp de Bergen-Belsen.
Didier Chauvet, spécialiste du nazisme.
Donc ensuite, elle va être évidemment emprisonnée, comme les autres gardiennes et les autres membres des unités SS restés sur place, en vue d'un procès, qui sera donc le procès de Belsen. C'est un procès important parce que c'est le premier procès d'un univers concentrationnaire nazi.
C'est le moment où le monde entier découvre l'horreur des camps de concentration.
Barbara Netschek.
Oui, ça explose à la figure du monde entier. Et donc, Irma Grezel, effectivement, c'est The Beast of Belsen, donc la bête de Belsen. Et je pense que si on affuble les femmes en particulier de ces surnoms-là, c'est parce que c'est des femmes et parce qu'on ne s'attend pas à ce que les femmes puissent être aussi violentes et à la limite, elles paraissent encore pires que les hommes.
Alors, principalement à Auschwitz, elle est accusée donc de donner régulièrement des coups de bâton, des coups de pied. Ensuite, elle est surtout accusée d'avoir participé aux sélections en vue de la chambre à gaz. Elle a été également accusée d'avoir tué une prisonnière avec son revolver à l'intérieur du camp.
Minute du procès de Belsen recueilli par les autorités britanniques. Procès de Belsen, mardi 16 octobre 1945, 26e jour. Irma Grezel est interrogée par le major Cranfield.
Quel âge aviez-vous à ce moment-là quand vous étiez au camp C?
20 ans.
Avez-vous porté un bâton à Auschwitz?
Oui, un simple bâton.
Avez-vous porté un fouet à Auschwitz?
Oui, fait de cellophane, fait dans l'usine de tissage du camp. C'était un fouet très léger, mais si je battais quelqu'un avec, ça faisait mal. Après 8 jours, le commandant Kramer a interdit les fouets, mais nous avons néanmoins continué à les utiliser. Je n'ai jamais porté une matraque en caoutchouc.
Avez-vous porté à Belzen une arme quelconque ?
Non.
Voulez-vous expliquer à la cour à quelles occasions vous avez frappé les prisonnières et la raison pour laquelle vous l'avez fait ?
Au début, je n'ai rien utilisé du tout. Mais plus tard, lorsque les prisonnières dans le camp C étaient devenues plus nombreuses, il y avait beaucoup de vols. Et les prisonnières n'obéissaient pas à mes ordres, même quand c'était des ordres assez légers. Chaque jour, il y avait des plaintes de vols dans la cuisine. J'ai mis 2 surveillantes en charge de ça, et je leur ai donné des ordres pour qu'elles gardent les yeux ouverts. Si elles trouvaient une voleuse, elles pouvaient lui donner une bonne raclée. Au début, chaque prisonnière avait 2 couvertures. Mais quand elles sont devenues plus nombreuses, elles n'en recevaient plus qu'une seule. Nous avons constaté qu'elles avaient coupé toutes ces couvertures et en avaient fait toutes sortes de choses. Des chaussures, des vestes, etc. J'ai donné des ordres stricts pour que tout ce qui avait été fait avec les couvertures soit rendu immédiatement. Mais je n'ai rien reçu du tout. Alors, j'ai ordonné le contrôle de tous les blocs et aussi des recherches d'affaires personnelles des prisonnières. À ces occasions, j'ai utilisé mon fouet.
Lorsque ces personnes défilaient, elles étaient très souvent nues et inspectées comme du bétail pour voir si elles étaient aptes à travailler ou bonnes pour mourir, n'est-ce pas ?
Pas comme du bétail.
Vous mainteniez l'ordre. Si une prisonnière s'échappait puis était reprise, vous battiez la fugitive ?
Oui.
Portiez-vous un pistolet à Auschwitz, dans le camp C ?
Oui. Il était plutôt dangereux dans les derniers mois d'être désarmé à cause des partisans. Et je l'ai porté seulement pour me protéger. Il n'était pas chargé. Je n'ai pas porté de pistolet à Belsen et je n'ai jamais tiré sur personne. J'ai juste tiré en l'air la veille du Nouvel An.
Le témoin Stein, Ilona Stein, nous a dit qu'à la sélection de l'été 1944, certaines prisonnières ont tenté de se cacher, mais que vous les avez vues et qu'à cette occasion, une femme a été abattue. Il a été suggéré que la femme a été abattue par un homme, un gardien SS. Aviez-vous tout pouvoir pour donner des ordres à un garde SS ?
Non.
Ce même témoin a prétendu qu'il y a eu un incident lorsqu'une mère parlait à sa fille de part et d'autre d'un barbelé de séparation de blocs. Vous étiez sur une bicyclette et vous avez battu la mère si violemment que lorsqu'elle est tombée au sol, vous lui avez donné des coups de pied ?
Je ne nie pas que je l'ai battue, mais je ne l'ai pas battue au point qu'elle tombe au sol. Et je ne lui ai pas donné de coups de pied non plus.
Irma Grézet, elle était comme les autres.
Barbara Lechek.
Elle a voulu faire carrière. Elle a appris en observant ses supérieurs et elle était persuadée, tout comme les autres, que les femmes qu'elle gardait étaient inférieures à elle, tout simplement. Quand vous avez des prisonnières devant vous qui se ressemblent toutes, qui au bout d'un certain temps sont sales, amaigries, elles ne ressemblent plus à des êtres humains. Enfin, par exemple, il y a un phénomène chez les gardiennes, c'est qu'au bout d'un moment, par peur de se salir ou d'attraper des maladies, bah c'est comme ça qu'elles se sont, que certaines se sont mises à donner des coups de pied pour éloigner, enfin physiquement éloigner les prisonnières d'elles quand elles venaient leur demander quelque chose. Donc oui, je pense, dans ces circonstances très particulières qui étaient l'Allemagne nazie de l'époque, les camps de concentration, la guerre... Bah oui, Irma Grézet a 17, une petite blonde de 17 ans qui a au départ voulu devenir actrice. Oui, est devenue gardienne de camp de concentration et puis à ce titre condamnée à mort pour ses crimes.
Procès de Belzen, mercredi 17 octobre 1945, 27e jour. Irma Grézet est contre-interrogée par le colonel Backhaus.
Vous aviez des bottes lourdes. Et aimiez marcher autour des prisonnières avec un revolver attaché à votre taille et un fouet dans votre main, n'est-ce pas ?
Je n'ai jamais aimé ça.
Vous pensiez qu'il était intelligent d'avoir un fouet fabriqué dans l'usine, et même lorsque le commandant vous a dit d'arrêter de l'utiliser, vous avez continué, n'est-ce pas ?
Oui.
Alors, la plupart de ces prisonnières qui ont dit qu'elles vous ont vu porter un fouet ne mentaient pas, n'est-ce pas ?
Non, elles n'avaient pas tort.
Étiez-vous autorisé à battre les gens ?
Non.
Il ne s'agissait donc pas d'ordre de vos supérieurs. Vous avez fait cela contre les ordres, n'est-ce pas ?
Oui.
Avez-vous donné des ordres à d'autres surveillantes travaillant sous votre responsabilité de battre des prisonnières ?
Oui.
Aviez-vous le droit de donner une telle autorisation ?
Non.
Irma Grézet va attirer sur elle toute l'attention de l'histoire et ensuite des médias quand ils évoquent les camps de concentration de femmes. La patronne, la Lagerführerin, la chef de camp, du camp des femmes, c'est la fameuse Mandel, Maria Mandel, dont on parle peu, mais qui va être condamnée et pendue, elle aussi, mais on en parle moins. Et en même temps, bon, elle, ce qui l'intéresse, c'est la musique, elle a son orchestre de femmes, dirigé par la nièce de Malheur. Ce qui l'intéresse, c'est la musique et le chant. Donc elle ne s'occupe pas du camp, elle ne met pas beaucoup ses pieds en dehors de la baraque des musiciens, et donc elle délègue à qui a fini par monter tous les échelons, elle délègue à Grézeux, à Irma Grézeux, qui d'un seul coup devient, en quelque sorte, cette fois-ci pas dans le mythe, dans la réalité, l'image même de la gardienne SS d'Auschwitz, c'est quoi ? C'est pas seulement garder, hein, c'est pas seulement donner des coups, c'est aussi, par exemple, présider, ou en tous les cas participer activement aux sélections, qui envoient périodiquement à la chambre à gaz les malades, les malportants. Donc c'est jouer un rôle actif dans le génocide. Donc là, le jugement est plus facile à faire. Alors en même temps, elle est réputée donc pour sa cruauté, elle est réputée pour ses manies. On sait qu'elle est passée quelque part grâce au sillage parfumé qu'elle laisse derrière elle, parce que elle participe largement au pillage de Canada. Qu'est-ce que c'est que Canada ? C'est un ensemble de baraquements, c'est tout un îlot d'Auschwitz où on empile les biens des déportés, notamment des malheureux juifs, leurs valises. Et là, il y a des déportés qui privilégiés, qui sauvent leur peau comme ça, qui font du tri. Et Irma Grézeux, elle, est une collectionneuse de parfums, et donc on lui met de côté les parfums souvent de marque, et donc elle se parfume abondamment. Donc je donne ce détail-là, parce que je crois que ça montre assez ce que ça peut être l'ambiance d'un camp de concentration, quoi. Même les historiens comme moi qui ont travaillé, beaucoup lu sur le sujet, je pense, ne peuvent pas, et les déportés survivants, quand ils se sont enfin décidés à parler, ne peuvent pas vivre, revivre ce qu'a été cette réalité quotidienne du camp, avec les filles, par exemple, qui il y a des témoignages quand même, hein, cette fois-ci recevables, qui font le tri du Canada. Elles prennent des bains de soleil à trois rayons, à trois barbelés des chambres à gaz. C'est tout ça, Auschwitz. C'est tout ça.
Après, Irma Grézeux, comme d'autres gardiennes, donc malgré cette violence qu'on découvre après la guerre, tous les témoins qui racontent vraiment des horreurs sur elle, c'était, même en tant que gardienne encore, une jeune femme de son temps avec un esprit de midinette. C'est-à-dire qu'à un moment, Irma Grézeux, elle se fait muter quand même dans un autre camp. Enfin, elle demande sa mutation pour suivre son fiancé SS, dont elle ne veut pas être, dont elle veut pas être éloignée. Et des témoignages comme ça, on en a pas mal de gardiennes qui vont voler des objets, des objets donc qui ont été confisqués aux prisonniers, pour se constituer un trousseau pour après la guerre, où elles rêvent d'habiter dans des petites maisons, d'aller au dancing, d'avoir une petite voiture, un gentil mari, éventuellement bon, des domestiques russes ou polonais, voilà. Et ce décalage, encore une fois, il est très très troublant.
Juste avant les réquisitions, Irma Grézeux demande la parole pour revenir sur certaines de ses déclarations.
J'ai dit dans une déclaration précédente que je n'avais jamais battu ou maltraité des prisonnières. J'ai réfléchi et je tiens à avouer que je l'ai fait et à dire la vérité. Je tiens à ajouter que j'ai en fait battu des prisonnières autrement qu'avec ma main, comme je l'ai déjà décrit. C'était à Auschwitz, où pendant au moins une semaine, plusieurs femmes SS avaient des fouets courts fabriqués dans les ateliers du camp, avant que ces fouets ne nous soient enlevés. Je reconnais aussi que j'ai puni les prisonnières en les faisant agenouiller sur le sol pendant les périodes d'un quart d'heure. Je me souviens avoir dit que Himmler est responsable de tout ce qui s'est passé, mais je suppose que j'ai autant de culpabilité que tous les autres au-dessus de moi. Je voulais dire par cela que simplement, en étant dans les SS, et voir les crimes commis sur les ordres de ceux qui avaient l'autorité et ne rien faire pour protester ou arrêter d'être commis rend quelqu'un dans les SS coupable comme tout le monde. Les crimes auxquels je fais référence sont les gazages de personnes à Auschwitz et le meurtre de Milia Belzen par la famine et la maladie. J'ai maintenant avoué tous les mauvais traitements infligés aux prisonnières dont j'étais coupable, parce que c'était sur ma conscience. Je n'ai rien d'autre à admettre.